Donc mes premières questions sont des questions tout à fait traditionnelles sur depuis quand vous êtes arrivé dans le quartier.
Alors bah parce que moi finalement j'ai un peu parcouru le 14e parce que quand je suis née, nous avons habité avec mes parents et ma sœur donc rue Boissonnade sur Raspail et au-dessus du centre américain donc qui n'existe plus. Mmh. Et puis après sur d'enfer. Donc, dans une petite rue qui donne sur la place d'Enfer-Rochereau, mes parents étaient commerçants rue Daguerre. Et moi, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai habité rue Daguerre.
D'accord.
Et finalement, ici, l'occasion s'est présentée quand j'ai cherché une librairie à reprendre. J'en ai vu plusieurs là sur Paris, donc, et puis c'est ici que ça s'est fait finalement.
C'était déjà une librairie.
Donc. C'était déjà une librairie. Alors ici, la librairie, elle existe depuis. J'ai une cliente qui fait des recherches généalogiques et un jour elle est retombée un petit peu comme ça par hasard sur des registres de commerce. Et c'est elle qui m'a dit qu'apparemment la librairie avait été ouverte autour des années. Alors attendez, ça doit être en 20. Je crois que c'est 26. Donc la librairie, le lieu en tant que librairie a à peu près 80 ans, quoi.
Et quand vous avez repris, il y avait une clientèle de
quartier. Oui, il y avait une clientèle de quartier qui a énormément changé. Donc, parce qu'ici, on est sur un quartier qui est très cerné. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des frontières dans ce quartier.
Ben, c'était une de mes questions, alors je vous écoute.
Alors ça, c'est clair, c'est l'avenue Général Leclerc.
Oui.
Hein, la rue d'Alésia, qui sont vraiment des grands axes de circulation, et la rue de la Tombissoire, grosso modo, voilà, on est dans une sorte de triangle comme ça, un petit peu. D'ailleurs, c'est à peu près la configuration qu'ils ont gardée pour créer il y a quelques années ce fameux quartier vert, qui finalement a fini par tuer le quartier, quoi. Parce qu'ils ont coupé totalement la circulation. Mmh. Il y a certaines rues, elles ont une seule rue à trois sens différents. Ils ont essayé de casser le passage dans le quartier pour en faire un quartier tranquille, ce qu'ils ont appelé un quartier vert. Mmh. Mais finalement, plus personne ne rentre dans ce quartier, ni n'en sort d'ailleurs.
Donc c'est un quartier un peu mort.
Ça, oui.
Je me suis pas rendu compte en arrivant, comme j'étais au café d'en face.
Mais comme nous, on n'est pas très très loin de l'avenue. Bon, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu le quoi qu'il n'y a pas de passage. Hein, les gens qui, on n'a pas la clientèle de l'avenue Générale. Le passage de l'avenue Général Leclerc, on l'a quasiment pas ici. Nous, on a le passage des gens du quartier. Et c'est tout parce que il y a une. Moi, je me rends compte maintenant comme. Beaucoup d'anciens habitants. Il paraît qu'à une époque, ce quartier était un des plus vieux de Paris au niveau de l'âge. Donc depuis, on va dire, je pense maintenant à peu près une dizaine d'années, le quartier s'est beaucoup renouvelé dans la population. Il s'est rajeuni et quelque part, on a un peu perdu la clientèle traditionnelle, surtout nous en librairie. C'est-à-dire des gens d'un certain âge maintenant qui sont même très âgés, très proches du livre, de la. Bon, des gens qui à l'époque, il faut quand même le dire, avaient quand même les moyens. C'était souvent ou des gens d'une cinquantaine d'années, donc plus d'enfants à charge, ayant leur appartement, donc très peu regardant. Bon, ils venaient acheter ce qu'ils avaient envie. Donc c'est vrai une clientèle plutôt facile, on va dire, pas très très attachée au commerce de quartier. C'était encore des gens qui traditionnellement étaient encore très très attachés au commerce.
Donc ils voulaient garder leur librairie de quartier, que
mais
la FNAC
n'avale
pas tout.
Voilà, tous les commerces en général, hein, pas que la librairie. C'est vrai qu'on voyait ces dames retraitées qui allaient faire leurs courses tous les matins, passer chez chaque commerçant, dire un petit mot. Bon, le côté très traditionnel de la vie un peu en ville et de la vie de quartier. Et ça, je dois avouer qu'on l'a beaucoup perdu depuis à peu près 10 ans.
Alors qui vient?
Eh bien, on a toujours un peu ceux-là qui vieillissent. Il y en a d'autres qui sont partis du quartier, qui reviennent de temps en temps. Et puis, bon, quand même, évidemment, des nouveaux, mais il faut quand même bien reconnaître qu'ils sont plus jeunes, donc moins proches du livre. Hein. Ils ont, en général, bon, pour vivre dans ce quartier, il faut quand même beaucoup d'argent, parce que des loyers sont très, très chers ici. L'immobilier est très cher dans le quartier. Il y a un moment, ils disaient qu'on avait eu des chiffres. Je crois qu'il y a quelques années, ils avaient dit que l'immobilier avait augmenté d'environ 9% à Paris. Et sur le quartier vert, ils ont dit que ça avait augmenté d'à peu près 12 à 13% là par contre. Donc vous voyez, ce qui fait que finalement, l'immobilier ici, dans ce coin, est très très cher. Et on n'arrive plus à maintenir des clientèles. Ceux qui sont en location, la moyenne, c'est environ 3 ans. Il y a des déménagements et des emménagements en permanence. Il ne reste pas longtemps. Sur le coin, apparemment, il n'y a pas de très grands appartements. Donc, des jeunes couples qui s'installent dès qu'il y a un enfant, voilà. Dès qu'il y a un enfant ou deux, au moins deux, quand le deuxième arrive, ils partent. Et très souvent, ils partent en banlieue. Voilà. Ils ne restent pas à Paris. Donc, ça, c'est un petit peu pour ce qui a été des changements du quartier. Moi, je suis là depuis 23 ans. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de changements. Ce qui fait que pour nous, maintenant, dans des petites rues comme ça, où on n'a pas ce passage de l'avenue, les gens ne rentrent pas dans les quartiers maintenant. Donc on a beaucoup de mal à maintenir une clientèle du quartier.
Mais bon.
Et puis, il y a quand même un problème financier, quand même.
Je vais vous interroger là-dessus, mais. Du coup, vous ne pouvez pas travailler, par exemple, avec les lycées.
Il n'y en a pas. Et puis, les lycées, si vous voulez, maintenant, les livres sont gratuits. Nous, dans le quartier, on a pas de lycée, déjà. Il y a deux collèges, rue d'Alésia, mais il n'y a pas de lycée. Et la seule école privée qu'il y avait dans le quartier, moi, avec qui je travaillais un peu quand je suis arrivée ici, a fermé il y a maintenant, peut-être au moins 12 ans, je pense, 12-13 ans. Oui. Donc, de ce point de vue-là, puis il y a deux maternelles, mais de ce point de vue-là, ce sont des écoles publiques. Il y a deux maternelles et une école primaire rue Prise d'Avennes.
Je pensais à ça parce que j'imagine que des maternelles, ça a besoin de livres d'enfants.
Oui, bon, alors, pour ce qui est du livre jeunesse, on va dire du livre de détente, mais pas du livre scolaire. Hein. C'est vrai qu'au niveau scolaire, non, on n'a jamais vraiment travaillé avec du point de vue scolaire. Pas spécialement. C'est vrai que bon, maintenant, ce sont de jeunes parents qui sont moins orientés sur le livre, donc qui automatiquement orientent moins les enfants sur le livre. Mais donc souvent, ce sont les grands-parents qui achètent les livres, plus que les parents.
Ce dont vous parlez, c'est la crise générale des Français, pas simplement des Français, de l'humanité et de la lecture.
Absolument.
Très inquiets.
Les gens sont très absorbés par l'image maintenant, le loisir surtout sur ces générations-là quand même maintenant. C'est des générations, bon, je vois ici, ceux qui ont des enfants sont à peu près autour des 30 ans, je pense. Donc, ils sont déjà de la génération de l'image. Et d'Internet, il faut quand même le dire. Donc, ce n'est pas tant le livre électronique, pour le moment, qui est une concurrence. C'est un peu, bon, évidemment, les achats sur Internet, donc sur les sites de vente de livres.
Et puis,
surtout, le temps que les gens passent devant Internet. Ça a mangé énormément. Le loisir lecture est devenu le loisir image, quelque part. Quand on passe 4 heures sur Internet, on n'a plus beaucoup de temps pour ouvrir un livre.
Absolument.
Donc, et ça, ce sont des jeunes qui sont vraiment génération image. Bon, puis d'autre part, il y a un problème d'horaire. Je dis souvent, j'ai l'impression que, je ne sais pas, dans d'autres quartiers un peu périphériques de Paris, mais moi j'ai l'impression ici qu'on devient un peu un quartier dortoir. Les gens partent tôt le matin, rentrent tôt le soir. Ça, c'est le problème de Paris, je pense, et de la région parisienne aussi. Les gens ont de plus en plus de transports en commun. De plus en plus de transports, en tout cas pour aller travailler. Donc,
on aurait pu penser que les gens du 14e étaient privilégiés, restaient dans la ville, mais non.
Non, moi je vois, il y a quand même une bonne partie de l'immeuble que je ne connais plus trop, mais j'ai des jeunes voisins qui sont là quand même depuis maintenant 7 ans à peu près. Eux n'ont pas d'enfants, mais ils sont cadres tous les deux. Et c'est vrai que je
ne
les vois pas partir le matin, mais le soir. Je me dis souvent, quand je les vois rentrer, je me dis « Ah, je devrais être fermée, là, normalement. » Ça veut dire qu'en général, je ne les vois pas avant 20h15. C'est à peu près leurs heures de... Si je les vois vers 20h ou 19h30, c'est qu'ils sont partis plus tôt. Voilà.
Et alors, avec ce qui reste, votre métier de libraire a changé? Est-ce que les gens arrivent... Voilà, ma question, ça serait... on a dit qu'il y avait eu les années pivots, puis maintenant, il y a justement tout ce qu'on trouve sur Internet. Est-ce que les gens arrivent en sachant ce qu'ils veulent? Est-ce que vous jouez un rôle de
conseil? Ça n'a pas beaucoup changé, moi, je ne trouve pas énormément. Bon, il y a... de ce point de vue-là, il y a toujours eu ceux qui savaient ce qu'ils voulaient en arrivant. C'est très étonnant parce que c'est vrai qu'on disait qu'on avait l'impression quand même que les gens lisaient moins. Par exemple, par contre, le livre est toujours un cadeau. Moi, je fais toujours beaucoup de paquets cadeaux. Donc là, ces gens-là, par contre, quand ils viennent, alors c'est pareil, il y a les deux. Soit ils veulent offrir un livre très précis. Bon, on l'a pas. Quand on l'a pas, si c'est urgent, ils achètent pas, on commande pas. Et sinon, ils demandent conseil. Bon, moi, j'ai encore quelques clients, oui, qui viennent et qui demandent conseil. Et puis, c'est assez varié quand même. C'est assez varié. Mais je trouve que ça n'a pas, dans le choix même des livres, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, moi, ce qui me fait un petit peu peur pour ce qui est de l'aspect purement littéraire, on va dire, c'est que les médias ont beaucoup habitué les gens à lire, on va dire, des textes faciles. Il y a évidemment le côté, mais ça, c'est le domaine de l'image toujours, le côté très voyeuriste qui est arrivé, je trouve. Par exemple, pour citer par exemple que le livre de Simone Veil qui est paru à l'automne dernier, il y a des gens qui l'ont acheté, évidemment, Simone Veil parlant d'elle, c'était quand même un peu un événement, et d'autre part, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus d'après les réflexions. Ils s'attendaient à quelque chose d'un peu différent.
Ils voulaient l'émotion et on leur a donné.
Ils voulaient quelque chose de voilà. Moi personnellement, je l'ai pas moi non plus. Je l'ai un peu parcouru, mais le livre est un peu à l'image de la personne finalement. Elle est restée un petit peu, je dirais pas en surface, mais elle s'est pas totalement révélée. Et je crois que ça a déçu certaines personnes. Ils s'attendaient à peut-être des détails plus croustillants. Il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu cette attente là dans tous ces textes. Ou les récits autobiographiques, ou carrément des autobiographies ou des mémoires, ou ce qu'on appelle maintenant le roman fiction, quoi. Enfin, pas le roman fiction, le roman autobiographique. Donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont chercher ça dans ce genre d'ouvrage.
Je me suis promenée et j'ai regardé un petit peu. Il y a quand même une part, votre part à vous, de goût et de choix.
On essaye. Bon, il est vrai que les livres qui passent surtout par les médias, c'est vrai que cette année, par exemple, ça a été très caractéristique. Il y a eu le mois Gavalda, puisqu'elle en a sorti un nouveau cette année. Ensuite, on est passé, le mois d'après, ça a été Musso, qui est un jeune auteur. Guillaume Musso, dont on parle beaucoup dans les médias, surtout. Après, on a eu le mois Marc Lévy. Et puis là, on est dans le mois Fred Vargas. D'accord. Et ça, quelquefois, je me dis, mais bon sang, on a l'impression qu'il y a un livre par mois qui sort. Parce que ces gens-là, on ne parle que d'eux, on les voit partout. Or, il sort quand même, je pense, maintenant en moyenne... tout genre confondu, parce qu'il y a des postes en édition qui sont très importants, comme le domaine jeunesse, le domaine cuisine, évidemment le scolaire quand même qui tourne beaucoup. On est quand même en moyenne, je pense, à peu près maintenant à 5000 parutions par mois.
C'est peut-être justement
par mois.
Pour ça, s'il y a tellement de titres.
Mais c'est ça qui est énervant, c'est que voilà, ça, totalement. Donc moi je dis souvent, on est dans une sorte de maelstrom comme ça, au niveau des publications. Et puis alors, de temps en temps, émergent comme ça certains textes qui remontent un peu à la surface. Et nous, notre grande difficulté maintenant pour des structures très petites comme ici, c'est d'arriver à faire le ménage dans tout ça, de repérer certains textes et puis de les mettre en avant. Donc tout ça demande énormément de temps. Et c'est tout ce qu'on a retiré au livre maintenant, c'est le temps. Mais c'est le même problème pour le cinéma, par exemple. Il y a une masse de films qui sortent tous les mois, on met l'accent sur 2-3 films, vous en avez repéré un au bout de 15 jours, 3 semaines, quand vous voulez aller le voir, il n'est déjà plus dans les salles.
Ça tourne très vite,
voilà.
Évidemment.
Donc ça, c'est un énorme problème, la gestion des stocks et la gestion des titres. Donc nous, on a besoin de temps, en tout cas, moi je suis toute seule, il me faut quand même un certain nombre de temps pour arriver à regarder ce qui arrive,
lire
et encore pas toujours.
Au moins en diagonale.
Oui. Mais moi, je dis souvent à mes clients, moi j'ai un problème un petit peu, c'est que je pense être lectrice presque avant d'être libraire. Donc je ne sais pas lire en diagonale, je ne vois pas l'intérêt, je ne sais pas le faire. Et puis j'aime pas, moi il me faut, je lis tout, les points, les virgules, les...
Donc vous maintenez cette lecture exigeante.
Ah oui.
Et du coup, vous ne lisez pas tout, mais
non,
au moins
non, très loin de là.
Les choix, enfin j'ai vu, il y a ceux qui ont eu des prix, mais il y a aussi des livres qui sont sans doute...
Oui, puis moi souvent, c'est vrai que souvent les prix littéraires, quand je les ai lus, c'est souvent avant. Je ne vais pas lire un livre, par exemple, parce qu'il a eu un prix littéraire. Ça, en soi, je ne trouve pas ça très passionnant, quoi. C'est surtout quand on sait comment fonctionnent un petit peu les prix littéraires.
Oui, mais apparemment, ils ne trompent pas tant que ça. Il y en a pas mal sur votre table.
Oui, oui, bah, parce qu'ils arrivent en plus. Hein, puis c'est vrai qu'à un moment donné, bon, quand certains textes, quand on a certains textes qu'on les avait avant, bon, quand ils ont un prix, les éditeurs font mettre une bande dessus. Donc automatiquement, ils nous reviennent avec la bande à un moment donné. Hein, quand on les recommande, donc ça, c'est tout à fait systématique. Mais je me rends compte que finalement, ce sont surtout les livres de, on va dire les prix de lecteurs qui sont le plus intéressants. Comme le prix du livre inter, le concours des lycéens, qui est souvent, il faut quand même le dire maintenant, depuis quelques années, quelquefois supérieur au concours tout court.
Je trouve aussi. Hein.
Et moi, je me dis, d'ailleurs, quand on en parle avec certains clients qui sont encore assez proches de la littérature et du livre, je n'arrive pas à comprendre maintenant pourquoi les éditeurs ne vont pas regarder d'un peu plus près les prix des lecteurs pour voir un petit peu ce que les lecteurs demandent finalement à un livre. Et on se rend compte qu'il y a toujours un minimum de qualité littéraire, de construction littéraire, donc une certaine exigence quand même, et dans l'écriture et dans la construction. Et quelque part, autre chose que toutes ces autofictions qui sortent à n'en plus
moins
finir.
Moins de nombrilisme.
Ah là là, surtout
c'est,
moins.
C'est Claudel cette année, là, à nouveau, le Goncourt.
Le Goncourt des lycéens, oui, c'était Philippe Claudel. Donc, très, très beau livre. Moi, c'était un de mes préférés de la rentrée de l'année dernière. Je l'ai beaucoup vendu déjà avant qu'il ait le... Mais je trouve que c'est un des auteurs importants actuellement, enfin, pour moi en tout cas. Il fait partie vraiment de ces écrivains qui sont ce qu'on appelle vraiment pour moi des auteurs. C'est-à-dire des gens qui y a une écriture, il y a une vraie histoire. Parce que je crois que beaucoup d'auteurs ont oublié ça. C'est que le roman, pour ce qui est du roman, je ne vous parle pas du reste.
Il y a un tout petit peu d'un réel,
le roman, c'est une histoire. Comme on dit, un bon film, c'est un bon scénario. Un bon roman au départ, c'est déjà une histoire. Ce qu'il n'y a pas du tout dans l'autofiction. L'autofiction, il n'y a aucune histoire. Ces gens qui se répandent sur eux-mêmes sur 300 pages. C'est déjà pas porteur quelque part, hein, ce genre de. Alors que, bon, on peut dire par exemple pour Claudel, oui, c'est un vrai romancier. Parce qu'il recrée des lieux, il a son propre imaginaire, son propre. Et puis, il y a cette écriture et cette façon de faire, hein, quelque part. Il y a un vrai. Voilà.
Le style, effectivement.
Ah oui. Ah oui, oui, c'est moi je trouve en plus que là, le dernier, là, le rapport de Brodeck, pour moi, c'est peut-être un des plus aboutis que j'ai lu de lui.
Ah, écoutez, ah oui, c'est un
très, très, très
bel ouvrage.
Parce que
moi, je ne l'ai pas lu.
Ah oui, non, il faut le lire. Moi, je dis rarement à mes clients, il faut ou on doit. Parce que je crois que la lecture, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils ont un petit peu perdu de vue, c'est quelque chose de spontané. Je pense qu'on a tous eu l'expérience d'avoir acheté des livres à un moment donné qu'on a lu 3 mois après parce qu'on n'arrivait pas à rentrer dedans. Et beaucoup de personnes ont perdu l'instinct du livre. Moi, je dis quelquefois aux gens, mais pourquoi vous ne prenez pas celui-là? Ça fait 3 fois que vous le touchez et que vous le reposez. C'est une rencontre, un livre. Tout comme on rencontre des gens, je crois qu'il y a, il y a voilà, c'est ça qu'ils ont perdu.
Mais là, vous parlez du livre comme objet matériel.
Ben, objet à la fois du contenant et du contenu. Alors au départ, c'est le contenant qu'on voit, hein, c'est comme vous dites, c'est l'objet. C'est l'objet. Mais pourquoi celui-là et pas celui d'à côté, je sais pas, ça peut être l'auteur, ça peut être le titre, la couverture, peu importe. Il y a quand même une forme d'attirance vers je crois que c'est un peu comme pour les êtres vivants, il y a des rencontres qui se font et d'autres pas. Et les lecteurs ont perdu ce. Ils ont besoin beaucoup maintenant d'être assistés. Ils n'ont pas entendu parler. Ils n'ont pas. Et je leur dis, mais allez-y.
Vous croyez que c'est si différent?
Ah, beaucoup plus maintenant. Beaucoup plus. On a l'impression que pour des textes, des auteurs dont ils n'ont pas entendu parler, qui ne connaissent pas, ils vont prendre un risque. Et ça, on est dans une société où on ne prend plus de risques. Hein. Tout doit être bien cadré, bien cerné, bien sécurisé. Et ça, on le retrouve un peu même chez nous. Oui. Moi, je le sens de plus en plus. Quelquefois, moi, je leur vais leur proposer un texte. Ils vont me dire, je ne le connais pas, j'ai pas entendu parler. Oh, j'en ai pas entendu parler. Alors, je leur dis, essayez, allez-y. Et c'est curieux parce que, justement, là, j'ai un copain qui lit pas mal. De temps en temps, il prend des livres pour ça parce que lui, il lit beaucoup de polars. Et alors, de temps en temps, il me dit, bon, je vais en prendre un pour ma femme, elle a un peu marre des polars. Et Et par exemple, là, il y a pas très longtemps, je lui avais parlé des déferlantes. Là, c'est un titre de Claire Gallet dont on parle un peu. Moi, je l'ai lu il y a quelque temps. Bon, c'est un petit, je dis souvent aux gens, c'est un petit peu à la fois un livre d'univers, mais en même temps un vrai roman. C'est un roman, je pense, qui surprendra pas le lecteur, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent des impressions de déjà vu comme ça. Mais il y a une tonalité, une écriture, un univers surtout. Et je dis, c'est un peu le même genre de plaisir, finalement. Un livre, bon, voilà, on commence et on va au bout, tout simplement. C'est un petit peu le livre plaisir. Et ça fonctionne un petit peu comme l'élégance du hérisson, voilà, que vous n'avez pas lu.
Mais,
qui était vraiment un énorme succès.
Anne-Marie Gara, qui a abandonné l'écriture expérimentale et refaire.
Elle est revenue au roman un peu fleuve, là. Moi, ça me tentait beaucoup, mais il est vrai que j'ai pas eu le temps ni de lire le premier. Je pense que j'aurais pas le temps de lire celui-là. Pourtant, moi, j'aime beaucoup. Alors, m'immerger dans des gros pavés, quand on est bien dedans, ça, j'adore.
Ça fait un livre d'été. Vous le vendez ?
Un petit peu. Bon, j'essaye de le mettre en avant, mais c'est vrai, bon, alors soit c'est trop gros, bon, il y a quand même aussi un petit peu le prix, il faut le dire. Les nouveautés brochées qui viennent de paraître maintenant.
Les gens attendent que ce soit des poches.
Voilà. Beaucoup.
Vous sentez les difficultés économiques.
Oui.
Donc pour vous.
Oui. Et ça fait quand même très très longtemps, oui. Oui. Oui, moi, quelquefois, ils me disent... ils ne le disent pas vraiment, mais quand ils me disent, je vais voir, bon, je vais attendre un peu, je vais réfléchir. Bon, ils ne vont pas nous dire, non, c'est trop cher, mais c'est pas loin pour certains. Oui. Il y en a qui me le disent quelquefois, je vais attendre qu'ils sortent en poche. Oui. Donc ça, c'est des réflexions, quelquefois, on le voit. Et puis, bon, moi, je me rends compte, la rotation poche est beaucoup plus importante que la rotation nouveauté, maintenant. À part certains titres.
Vous nous décrivez, là. ma famille aussi, bien.
Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître un petit peu dans ce genre de portrait. C'est pas... nous, c'est un constat qu'on fait. Et moi, je me rends compte que, quand même, maintenant, les rotations, sont beaucoup plus importantes sur les poches. Le panier moyen va beaucoup plus sur le poche.
Vous avez vu des gens partir pour des raisons économiques
dans Oui.
Commentent. Donc des voisins qui disent on ne peut plus tenir.
On ne peut plus tenir, ou alors il nous faut plus grand et on ne peut pas dans le quartier.
Dans Paris.
Ah oui, mais ça c'est un énorme problème. Et je pense que si on a des problèmes maintenant de clientèle, moi qui suis une vieille parisienne, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai quand même beaucoup l'impression que cette ville est devenue... on va dire le centre, une ville musée, les arrondissements extérieurs un petit peu comme les nôtres, des arrondissements dortoirs. Moi, je crois que c'est une ville qui s'est beaucoup vidée de sa population, en plus d'une population jeune, et donc ça, c'est une ville vieille. Moi, j'ai eu des échos, par exemple, par certains représentants qui me disaient que certains confrères étaient complètement désespérés parce que leur clientèle traditionnelle était en train de partir. Que beaucoup d'immeubles, comme tous ces immeubles qui ont été vendus à la découpe, comme on a beaucoup entendu parler, ça c'est une réalité. Nous, on en a eu beaucoup dans le quartier ici. Hein. Oui. Beaucoup. Là, je vois, il n'y en a rien qu'ici. Il y a les deux du bout de la rue. Celui d'en face, là où il y a le grand magasin, là, les immeubles un peu récents, là. Tout ça, ce sont des immeubles qui ont été vendus à la découpe, qui appartenaient là à une société suisse, l'autre aussi, je crois,
acheté,
des banques. En face, je crois que c'était au GAN, il me semble, une assurance.
Donc ils ont vendu il y a une dizaine d'années.
Celui d'en face, ils l'ont mis en vente, c'était quand ? Il n'y a pas tant d'années que ça, peut-être 3-4 ans maintenant.
Ah bon,
à côté, c'est à peu près pareil, là, celui du bout de la rue, grosso modo. Mais moi, je connaissais un couple de clients, ils sont partis. D'ailleurs, il y a eu un moment donné, ils me disaient, on est squatteurs, nous. Oui. Ils n'avaient plus de bail.
Oui. Il y a eu des essais d'associations de locataires, sans doute, à ce moment-là.
Oui, je ne sais pas trop. Bon, je sais qu'il y en a, là, ils ont un problème sur l'avenue. Il y avait beaucoup de vieux loyers dans cet immeuble. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il me semble que ça a été repris par un marchand de biens et qu'à un moment donné... il y a eu quelque chose d'un petit peu particulier. Et je crois que la mairie de Paris a mis un veto sur la vente de...
Mais il faut qu'elle puisse racheter, la mairie de Paris.
Voilà. Mais ils ont mis... attendez, il y a un terme juridique qui ne me revient pas du tout. un droit de péremption, c'est ça, mmh. hein, je sais pas. Et parce que je crois qu'il y a, il y a eu un problème au moment de la vente de l'immeuble, mmh. la vente globale de l'immeuble. Mmh. Et je sais pas s'ils ont pas tout déclaré, si s'il y a eu bon, un marchand de biens qui a voulu faire une plus-value trop importante. Enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose. Et du coup, la mairie a mis un peu son grain de sel là, sur cet immeuble-là. Mm-hmm. Donc, pour le moment, les gens, les locataires sont un peu en attente.
Oui. Hein. Donc, c'est une.
Mais je pense qu'il y a une procédure qui est entamée.
Hein, que vous êtes en train de décrire.
Ah, bah oui, non, mais je crois qu'elle est, elle est là, hein, cette oui. réalité. Il faut. Il faut quand même le voir en face. Hein.
Alors,
ah oui, ça c'est
si
très clair.
Si on remonte maintenant de quelques dizaines d'années, c'était comment l'enfance d'un enfant du 14e.
C'était comment moi je dois dire, bon, peut-être que moi c'était peut-être un petit peu différent de certains autres du fait que mes parents étaient commerçants.
Oui.
Ils avaient la poissonnerie rue des Guerres. Donc nous, ce qui fait que c'était un peu le village, quoi, parce qu'on connaissait tout le monde et tout le monde nous connaissait quelque part. C'était plus facile pour nous du fait que il y avait un peu cette façade publique déjà du métier des parents. Donc on connaissait très très bien évidemment tous les voisins commerçants, les enfants des voisins commerçants. Qui pour pas mal était à peu près de notre génération, ma sœur et à moi, hein, donc sur à peu près une dizaine d'années, on était tous dans la même tranche d'âge. Et moi, mes parents sont arrivés rue Daguerre en 58. Ils avaient une autre boutique avant, sur l'approche banlieue, et ils ont eu l'occasion donc d'arriver la rue Daguerre dans ce magasin. Oui, c'est ça, c'était 58. Mmh. Voilà. C'est pas difficile d'être né dans le 14e arrondissement parce qu'il y a beaucoup de maternités dans il y a beaucoup d'hôpitaux hein, d'ailleurs sur cet arrondissement et il y a beaucoup de maternités. Mais ma sœur et moi, on est nés dans le 14e, maman y est née, on est toutes nées à Bodloc.
Ah oui,
et, c'est la maternité à Port-Royal, qui est à côté de Port-Royal.
Je vois très bien.
Bodloc, bon, ça dépend de l'hôpital Cochin, mais c'était la maternité, je crois, de Cochin. Puis il y avait Port-Royal, quoi,
en fait, toutes ces maternités.
Au métro Port-Royal, RER. Oui, voilà, à l'angle du boulevard Montparnasse et de l'avenue de l'Observatoire.
C'est cela.
Hein, voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont nés là, dans ces maternités-là. Et puis, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous, on habitait rue Boissonnade.
Quand vous dites on connaissait tout le monde, ça veut dire que vous pouviez jouer dehors, on vous laissait.
Oui, enfin à l'époque, la rue Daguerre n'était pas piétonne comme elle l'est maintenant. C'était une petite rue commerçante, comme il y en avait beaucoup, comme la rue Mouffetard, beaucoup existent encore un petit peu dans Paris, mais il y en a de moins en moins quand même. Et nous, on était souvent dans la rue, oui, bien sûr.
D'accord.
Et moi, je me souviens, puis en plus, moi, j'étais très, très... J'étais tout le temps, même, parce que tous les jours, quand je rentrais de l'école, quand j'étais un petit peu plus grande, j'allais faire les courses. Donc, maman m'attendait avec la liste de courses et le porte-monnaie. Et d'ailleurs, quelquefois, quand elle voyait des clients qu'elle connaissait bien ou des voisins qui passaient, elle disait, bon, ben, si vous voyez Nicole quelque part, il faudra peut-être lui dire qu'elle rentre à la maison faire ses devoirs. Moi, j'aimais beaucoup.
Oui, parce que les courses traînaient un peu, du coup.
Oui, beaucoup, ben, évidemment. Alors, moi, tous les commerçants que je connaissais, ah, ben, alors, ça va, la petite, aujourd'hui, t'as passé une bonne journée, et comme je suis quand même, j'étais déjà à l'époque très bavarde. Donc, c'est vrai que ça pouvait durer très longtemps. Mais moi, j'adorais ça. Mmh. Ma sœur, elle était plus timide, plus réservée. Donc, elle s'occupait plutôt plus de la maison. Parce que comme beaucoup d'enfants de commerçants, on faisait quand même pas mal à la maison. Quoi. Mes parents avaient des gros horaires. Hein, donc,
D'accord. Mais les courses, ça commence.
Voilà, les courses. Et puis, bon, dès qu'on a un petit peu... Que maman nous a montré qu'on a... Bon, voilà, on aidait beaucoup à la maison. Donc, on préparait ce qu'on pouvait. Déjà pour les repas, souvent. Et puis, voilà. Et puis, c'était comme ça. Je pense que vous avez connu ça aussi. On mettait la table, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait quand même.
Mais moi, j'ai 10 ans de plus, donc c'était normal. Ouais. Il y a un moment où ça bascule et où on cesse de demander des choses aux enfants.
Ah oui, non, nous, on fait encore partie de... Ma sœur et moi, on est encore de cette génération-là. Nous, on est fait un baby-boom, donc on a encore été élevés comme ça, de cette façon-là. Ça, c'est... mais c'était...
Et dans la rue, alors, vous avez joué aussi? C'était pour les courses ou c'était aussi, je sais pas moi, la marelle, les billes
Rue Daguerre, il n'y avait pas trop de place, hein, quand même. D'accord. Donc, quelquefois, on allait plus sur la place d'Enfer-Rochereau. vers les squares là, qui mmh. sont donc derrière la station de métro, là, vers la rue Froidevaux.
Tout petit.
Moi,
il y a un tout petit square.
Oui, il y en a deux. Il y en a un qui touche, le métro et puis mmh. l'autre qui est juste derrière oui. le passage de la place d'Enfer, puisque oui. maintenant, parce que la configuration de la place n'était pas comme ça à cette époque-là. Mmh. Le boulevard Raspail, la circulation remontait quasiment mmh. jusqu'au Lion de Belfort, hein, mmh. jusqu'au Lion. Mmh. Et maintenant, il y a eu un moment où ils ont fait un immense rond-point, on va mmh. dire. Donc, ils ont coupé une partie d'un des petits squares mmh. pour donc que la circulation voilà, du boulevard Raspail mmh. contourne un petit peu la place même. Et ils ont créé la station de taxi qui est maintenant mmh. à contresens en haut du boulevard Raspail.
Donc c'était plus grand quand même.
Voilà.
Et donc, ça c'était un terrain de jeu.
Oui, c'était assez calme. On allait très souvent au square. On jouait dans le square. On allait oui. se cacher dans les buissons. On jouait à cache-cache. Oui, bien sûr. Oui. On était. Et puis très souvent, moi je jouais aussi avec. J'avais une amie qui habitait en haut du boulevard Arago. Mmh. Et là, il y avait beaucoup de place. Parce qu'il y avait plus. Ça a toujours été un boulevard qui était très large. Il y avait le trottoir et puis vraiment la largeur qui est maintenant occupée par mmh. des voitures. Mmh. Et là, il y avait énormément de place. Oui, là, on jouait. Oui, oui.
Alors, c'était quoi?
Ben, pareil, oui, la marelle, on jouait à la corde, enfin bon, mmh. tout. Qu'est-ce que. Oui, aux billes, mmh. un peu.
Mais pas le vélo.
Et de la, non. Mmh. Non, nous, on n'avait pas de vélo à Paris. Mmh. Du tout, alors, non, pas du tout. Non, non, les vélos étaient à la campagne chez mes grands-parents. Parce que là, on y allait toutes les vacances. Hein. On nous envoyait, on nous mettait au train ou dans le car. Et on partait toutes les vacances mmh. scolaires. C'était en général hors Paris.
Parce qu'on avait
de la
Pâques.
Famille en province. Toutes. Oui. En général, toutes les vacances. Donc en tout cas, quand gardé, on était enfant, oui.
Oui, vous avez mmh. du coup gardé un...
Ah, beaucoup d'attaches, oui. Oui, oui. Mes mmh. grands-parents maternels avaient acheté une maison pour leur retraite dans l'Yonne, à côté d'Auxerre. Mmh. Et mon père était originaire de Franche-Comté, tout au fond du Doubs, là, dans le Haut-Doubs. Mmh. Donc là-bas, bon, lui était issu de familles nombreuses, hein, comme beaucoup de familles paysannes, très nombreuses. Donc là-bas, on a énormément de familles. Enfin bon, moins maintenant, parce que la génération de mon père a presque disparu. Donc, mais moi, j'y vais, comme ma sœur d'ailleurs, on y va très très régulièrement encore tous les ans, oui. Ah oui. Moi, ça me manque hein, quand j'y vais pas. Il faut aller se ressourcer un petit peu, oui. Donc en général, oui, oui, nous, toutes les vacances, ben, toujours pareil, hein, parce que... Les parents n'avaient pas trop le temps de s'occuper de nous. Bon, après, quand on a eu 8-10 ans, bon, ça s'était terminé. Souvent, on restait à Paris. Là, on se gardait toute seule. Hein, s'il n'y avait plus besoin de...
C'est la toute petite enfance.
Oui. Oui, mais enfin, bon, quand même, ils nous envoyaient quand même. Mais par exemple, les vacances qui étaient très courtes, quelquefois, on ne partait plus. D'accord. Voilà.
Et donc, l'école, c'était quoi, votre école?
Ah, nous, dans le privé. Dans le privé,
dans le privé
oui.
Mais
ah,
pourquoi
oui.
dans le privé?
Eh bien, parce que c'était toujours, d'ailleurs, comme presque tous, il y avait beaucoup d'enfants de commerçants dans le privé. Parce que les parents n'avaient pas le temps de s'occuper de la scolarité. Je pense que c'était un peu cette raison-là.
On vous l'a donné, cette raison?
Non, 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 non. Mm. Non, pas, c'est vrai qu'en plus, je n'ai jamais vraiment demandé. On était, d'ailleurs, nous, on était... Il y avait nos voisins d'en face qui étaient dans la même école que nous.
Vous avez continué dans le privé?
Ah, moi, j'ai toute ma scolarité, c'est faite dans le privé.
Jusqu'au bac?
Oui, oui.
D'accord.
Oui. Et nous, on allait à une école à la limite du 14e, 13e, juste après la prison de la santé.
Qui était une école catholique?
Oui, oui, oui. Oui, oui, qui est école religieuse catholique. D'ailleurs, il y avait encore des sœurs. Hein, moi, quand j'étais enfant... quand j'étais enfant, moi, c'était l'horreur parce qu'on allait au scout... On était scout, enfin Jeannette à l'époque, on était, ça n'a pas duré trop longtemps, parce qu'à un moment on a dit aux parents qu'on ne voulait plus y aller. Donc on a quand même été au scout quelques années quand on était, donc c'était
donc
l'uniforme,
ah oh,
c'est une horreur l'uniforme, oh là là, oui. Les jeudis, parce que moi j'ai connu encore les jeudis, les jeudis et souvent le dimanche, alors... c'était bleu marine et bleu les scouts et bleu marine et blanc l'école. Une horreur.
Vous en avez des souvenirs d'uniforme.
Ah, mais c'est affreux, je supporte plus. D'ailleurs, je n'ai jamais reporté de bleu, je supporte plus cette couleur depuis.
Mais dites-moi, est-ce que. Bon, c'était très rigide, qu'est-ce qu'on faisait dans ce...
Non, pas spécifiquement, non. Évidemment, bon, il y avait... Mais vous savez, moi je vous parle de ça, c'était fin des années 50, début des années 60, donc c'était encore très... Alors c'est vrai que, bon, si, il y avait la messe, hein, il y avait la messe dans la semaine. Donc, et puis, bon, je n'ai pas trop le souvenir, moi j'étais une élève très dissipée, donc... C'est vrai que souvent, avec les copines, je contournais. On allait se cacher au moment de la messe. Beaucoup de bêtises.
Non, vous avez gardé.
Oui. C'est vrai que j'ai eu plusieurs menaces de renvoi, mais ça restait peut-être que des menaces. De temps en temps, maman allait quand même à l'école, il y avait une petite convocation. Mon père ne se déplaçait jamais. C'était les femmes, traditionnellement, qui s'occupaient de ce genre de choses. Scolarité des enfants, en tout cas, moi, papa ne s'en occupait pas du tout. Donc, c'est vrai que c'était souvent maman qui allait. Mais dans l'ensemble, ça allait. C'était devenu un petit peu... Comme moi, j'y ai passé quand même plus de 10 ans dans cette école, c'était devenu quand même un peu chez moi,
Donc c'est moins affreux que vous le dites.
Non, c'était pas, mais c'est pas vraiment des mauvais souvenirs. Hein. Oui. Finalement, il y a eu un moment, on allait à l'école. Hein.
Vous avez gardé vos copines?
Non.
Donc ça s'est arrêté.
Ça a beaucoup explosé. Il y en a certaines que j'ai retrouvées en fac.
C'était où en fac?
À la Sorbonne. Oui. Et donc il y en a quelques-unes que j'ai retrouvées en fac, qui n'étaient pas vraiment avec moi.
70,
oui.
Et donc, la Sorbonne d'après.
Juste après, 68, après 68, hein, quoi.
Juste voilà. Après, ouais. Mais Paris 4.
Oui, Paris 4.
Ouais. Donc la vieille Sorbonne.
La vieille Sorbonne, encore bien traditionnelle. Voilà, oui. Paris 1 était déjà plus ouverte, mais Paris 4 était encore très, très traditionnelle à l'époque. Oui. Moi, j'ai vécu un grand moment dans ma université. J'ai assisté à l'arrivée de Ferdinand Céline au programme de licence.
Oui.
Ah oui, c'était une grande première. D'ailleurs, les profs
Parce que vous aviez choisi Paris 4 et pas, je ne sais pas. Moi,
mais moi, j'avais pas pu.
Paris 3 ou Paris 8.
Au départ, moi, j'étais partie pour m'inscrire à Sancier.
Sancier, oui.
Et comme Sancier est quand même une petite faculté, moi, quand je me suis inscrite, c'était déjà plein.
Oui, d'accord.
Il n'y avait plus de place déjà. Donc, je me suis rabattue sur Paris 4. Quoi. Ce qui fait que j'ai retrouvé certaines, de mon école là-bas. Au quartier latin, oui, certains qui faisaient des études... Et puis, il y en a avec qui on a encore eu quelques contacts pendant quelques années, parce que c'est pareil, elles étaient aussi en formation ou école supérieure. Et puis, c'est vrai que petit à petit, on s'est... Ah oui. Assez vite, d'ailleurs, moi, je trouve. Assez vite.
Souvent, c'est ce qui se passe.
Oui,
hein,
oui. Surtout dans des grosses villes. Comme ça, les gens s'éparpillent vite. Et puis comme beaucoup d'écoles privées, il y avait souvent des jeunes, des enfants qui venaient d'un peu plus loin. Donc nous, du fait que c'était le 13e, il y en avait déjà beaucoup plus qui étaient sur le 13e, donc qui habitaient plus sur la glacière Corvisart. Et nous, c'était plus notre quartier déjà, loin de là. Donc il arrivait que quand on était un peu plus âgé, adolescente, on se retrouvait le mercredi. Mais on n'était pas du tout du même quartier.
Et donc, vous avez vu passer 68.
Oui.
Avec des souvenirs.
Ah, très précis, oui. Oui, parce que... c'est vrai que cette année, on en a beaucoup reparlé. Je vois, j'ai des clients qui sont jeunes. Et je disais, moi, à l'époque, j'étais jeune. J'avais 13 ans. On n'y a pas... ma sœur a 2 ans de plus que moi. On n'y a pas participé. Mais on écoutait ça avec... on a suivi ça de très, très, très près.
Et alors, en adhérant à ce qui se passait ou au contraire...
Oui, quelque part. Je pense qu'on n'avait pas encore une conscience politique énorme à cet âge-là, malgré tout. C'est venu un peu après. Mais je pense que ça nous a laissé cette conscience sociale et politique. Parce que quelques années après, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait de plus près, d'avoir des opinions, d'avoir... Et je pense que, mai 68, il y a pour beaucoup.
Et comme femme, peut-être.
Oui, oui.
Parce que de temps en temps, on peut se dire que ce qui a le plus changé, c'est la place...
Oui, mais ça, je pense que c'est peut-être beaucoup plus tard.
Ah oui.
Avec un peu de recul. Je crois que... On était un peu, comme on dit, le nez dans le guidon, finalement. Donc, on ne voyait pas trop au niveau des femmes de la génération de ma mère ou même des grands-mères, où était vraiment le problème. Je crois que c'est quelques années plus tard, on s'est rendu compte de ce qu'avait été la vie de certaines femmes. Et moi, je me suis rendu compte que, par exemple, ma mère... ben, elle n'avait jamais géré son salaire, quoi. Qu'elle n'avait pas de compte en banque. Mais je pense que ça, vraiment, c'est quand on a eu peut-être, oui, à peu près 20 ans, quoi. 18, 20 ans, quoi. Oui. Parce que moi, j'ai eu la majorité à 20 ans.
Et non, 19 ans, 20 ans.
C'est Giscard, ah, 18
oui.
ans.
Voilà. Donc, moi, à l'époque, j'avais passé les 18 ans. Donc, oui, j'ai dû être majeure à 19 ou à 20 ans. Je me souviens plus très bien.
21 ans même, je crois.
Ben oui, non, mais moi, du fait que Giscard avait été élu, je me suis retrouvée majeure,
oui,
puisqu'il a donné.
Oui, oui, ça y est, je comprends ce
que vous me dites. Hein, il a donné la majorité après son élection aux jeunes à 18 ans, donc moi, je me suis retrouvée majeure, je crois que j'avais 20 ans.
Et alors, on vous a mis dans une école privée pour que vous soyez bien éduquée.
Oui, un peu cadrée. Mais je crois que c'était plus au niveau de la scolarité, plus qu'au niveau de l'éducation. En général.
Ah, d'accord. Hein.
Bon, moi, mes parents, bon, comme beaucoup, mes parents étaient catholiques, mais pas pratiquants, quoi.
Vous avez fait votre communion ?
Oui. Et puis, dès le lendemain de la communion, j'ai dit, bon, je ne vais plus à la messe.
Ah, d'accord. Vous étiez
et on m'a dit, mais pourquoi tu as fait ta communion ? J'ai dit, ben, pour avoir les cadeaux. C'était quand même un grand moment.
Donc, toute l'école oui, non, faisait sa communion en même temps,
oui,
et on se retrouvait
oui.
avec les robes blanches
voilà.
et les brachées.
Voilà, absolument, ah, absolument. Et puis, bon, il y avait quand même la fête à la maison aussi, c'était pas mal. Hein.
D'accord. Une montre
Oui, une montre.
La montre de
attendez,
la communion.
Je me souviens plus trop ce que j'avais eu en cadeau. Oh oui, tout ce qui était finalement, tous les cadeaux. Oui, c'était très traditionnel. Hein. La montre, qu'est-ce qu'on avait encore?
Et alors après,
oh, là, je me souviens
donc,
même plus.
Quand vous avez commencé à dire, ben, je sors, ou peut-être vous n'avez jamais dit, je sors, j'ai des copains, les booms, ça commençait la période des
oui, alors chez nous, nous, ça se passait jamais à la maison. Donc, on disait sans dire, tout en disant, quoi. Parce que, d'abord, parce que c'était toujours nous qui nous déplacions, ma sœur et moi, du fait des horaires un peu particuliers de mon père. Un papa partait au hall le matin à 2h30 du matin. Donc, l'après-midi, il dormait 2-3 heures l'après-midi. Et le soir, il allait se coucher au plus tard à 22 heures. C'était vraiment le... Donc, pas question. Nous, on était habitués à tout faire en silence. Il ne fallait pas faire de bruit. Il ne fallait pas... parce que papa dormait. Voilà.
D'accord.
Ça, c'était... Donc, en général, on n'a jamais eu vraiment d'amis, de copains, de copines à la maison. Donc, quand il y avait des fêtes, c'était toujours chez les autres, jamais chez nous.
Mais on vous laissait aller
oui.
Ça,
oui, oui,
sans
oui.
problème
oui, oui, oui.
Et il y avait des permissions de 10h, 11h
Non, après, pas trop. Bon, moi, ma sœur a commencé à travailler. Elle est arrêtée au BEPC, elle a fait 2 ans, 2 ans d'école. Donc, elle a commencé à travailler assez vite. Et elle s'est mariée à 19 ans, donc elle est partie assez jeune. Et... bon, moi, je dois avouer que je sais pas, j'ai pas de souvenir de heurts avec mes parents là-dessus. Peut-être parce qu'on était encore justement une génération où on n'était pas trop exigeant. Ça commençait quand même, hein. Mais je pense que c'est arrivé un petit peu après ces fêtes, les booms, vraiment tout ce qui était vraiment organisation de fêtes et de. Et
donc
moi personnellement, j'y allais un petit
au
peu,
fond,
voilà.
Quand bon, vous avez commencé à sortir.
Oui.
Vraiment.
Oui, oui, moi j'avais bon, je suis rentrée en fac à 17 ans, j'ai passé mon bac à 17 ans, donc j'étais encore un petit peu jeune et puis donc il arrivait mais les booms le soir non. Bon, je pense que là d'ailleurs, il était même pas question d'en parler parce que je pense que mon père aurait dit non systématiquement. Et puis, après, ben, ça a été...
Mais une fois étudiante, comment ça se passe ?
Ah ben là, moi, j'ai jamais eu de problème. J'étais chez mes parents, mais bon, je travaillais... moi, je travaillais souvent, donc une sorte d'accord entre mes parents. Je leur ai dit, voilà, je reste à la maison, je cherche pas de chambre. Je vous demande rien, si ce n'est que peut-être de temps en temps, je disais à mon père, peut-être que de temps en temps, à la rentrée, je vais te demander un peu d'argent pour acheter certains livres parce qu'ils sont chers, mais... Pour le reste, moi, je travaillais toutes les vacances scolaires, bon, souvent chez eux, d'ailleurs, parce qu'il manquait toujours quelqu'un. Donc, c'était pas
mais
trop un problème.
Mais vous étiez une fille très sérieuse, si je comprends
non, pas
bien.
Vraiment, pas vraiment. Mais, donc, c'est vrai qu'il me demandait peu de choses, finalement. Mais je crois aussi parce qu'on a été indépendantes très jeunes, ma sœur et moi. Et que, quelquefois, quand on a été un peu, disons, adolescentes, quand ils commençaient à nous demander des choses... là, on était un peu étonnés. Donc, ou on leur répondait pas, ou on les envoyait promener, parce que qu'ils commencent un peu à s'immiscer dans notre vie, alors qu'on avait 14-15 ans, là, on se demandait un peu ce qui leur arrivait.
D'accord.
Mais, et puis je pense qu'il y avait un rapport de, confiance, je crois. Il y avait un rapport de confiance. Bon, quelque part, ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de nos vies à nous. Et bon, ben voilà, on était là le soir, on était... Bon, les choses... Ce qu'on avait à faire, on le faisait. Donc, je crois que quelque part, voilà, chacun menait un peu sa vie séparément, tout en habitant tous sous le même toit.
C'était évident pour eux que vous alliez travailler.
Non, je crois, ils n'ont jamais vraiment demandé. Mais je pense, oui, on a fait... ben, je vous dis, ça vient peut-être aussi du fait que, bon... En tant qu'enfant de commerçant, on a beaucoup participé.
C'est ça. Je me disais, votre mère déjà travaillait, donc au fond, le destin d'une fille n'était pas de se trouver un mari.
Non. Hein, non, puis je crois que maman, papa était peut-être plus traditionnel, lui, dans sa forme de... dans la vision de l'éducation. Maman, elle a toujours travaillé. Depuis qu'elle était jeune, elle est partie... Bon, quand elle a quitté ses parents, elle s'est mariée, parce qu'à l'époque, c'était juste après-guerre. Maman a toujours travaillé. Elle a travaillé, elle était encore chez ses parents, elle a travaillé. Donc, nous, on a toujours vu nos parents travailler. C'était pas trop un. Et puis, donc, c'est vrai que moi, j'aimais bien, même petite, j'allais des fois leur donner un coup de main. Moi, j'aimais bien ça. J'ai toujours aimé le commerce, finalement.
Et l'idée de vacances toute seule, par exemple, vous pourriez.
Oui, plus, moi je suis partie. Attendez, alors est-ce que c'était l'année Ben oui, c'était l'année de mon bac. Donc à 17 ans. Je suis partie avec une amie. On est parties toutes les deux. Ben, avec cette copine qui habitait en haut du boulevard Arago, qui était une vieille copine. Alors elle, c'est avec. C'est peut-être une de celles que j'ai vues le plus longtemps après le bac. Et on est partis toutes les deux, alors très traditionnellement au Baléares. C'était ce qu'il y avait de moins cher.
D'accord.
Donc, alors, ça a un petit peu accroché. Envers maman, pas trop. Papa, évidemment, j'ai vu qu'il commençait à faire un peu la tête. Puis là, il fallait que je demande parce que moi, j'étais pas majeure. Donc, il me fallait un papier des parents.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Donc, mais sinon, non, ça n'a pas été, ça a pas été un énorme obstacle, finalement.
Non. D'accord. Donc, au fond, enfin, je ne sais pas s'il faut parler de révolution des mœurs, parce que ça a l'air d'être comme ça dans votre famille depuis longtemps. Et vous n'avez pas connu une espèce de rupture à aucun moment.
Non, pas vraiment. Ah non, moi, je dois avouer que non, chez nous, il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu de très, très grande scène pour ce qui était un petit peu de Bon, surtout à l'adolescence, on n'était que deux filles, alors c'est vrai que c'était un peu quand même... Mais non, moi, je trouve que quelque part... Enfin, moi, je l'ai pas senti de contrainte. Peut-être que ma sœur en a senti, elle, peut-être un peu plus. Ça lui a peut-être un peu plus pesé, je ne sais pas exactement. Mais non, moi, je trouve qu'il n'y a pas... On ne faisait pas ce qu'on voulait, mais à partir du moment où on était dans les limites, quelque part, de ce qu'on attendait de nous, ils n'ont jamais rien exigé. Non, mes parents n'ont jamais eu vraiment d'exigence majeure, quoi. Puis vous savez, il y avait quand même beaucoup de choses dont on ne parlait pas. Moi, je vois... avec maman, ça n'a pas été trop un problème. C'était une femme, donc... Et puis Mais par exemple, avec papa, l'éducation sexuelle, les problèmes de relations avec les garçons et autres, c'était un jour... Et puis alors, papa, ça tombait toujours sous forme de sentence, hein, comme ça. Il y avait une forme un peu patriarcale, quand même, quelque part. Et je ne sais plus, un jour, à propos de quoi, on l'a regardé, c'était... On ne savait pas s'il fallait rire ou... Et un jour, il nous a dit, je vous préviens, ne rentrez jamais à la maison enceinte. Hein. Bah, grosso modo, voilà. Ça, il s'en est tenu à ça et on a tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Voilà, je crois que c'est sûrement une des seules fois où mon père a abordé ce sujet-là avec nous.
Mais,
hein.
Par exemple, la pilule...
ça, vis-à-vis de...
Il fallait l'autorisation des parents.
Oui.
Donc,
moi, ça n'a pas été un problème avec maman. Non, d'accord. Aucun. Non.
Oui, donc non, ça elle s'est là-dessus, passé 10 ans
ah
avant,
oui, non, mais ma mère était très là-dessus, elle a jamais... elle nous a parlé très jeune, bon, comme souvent des filles, hein, qu'un jour on serait réglé, donc tout ce qu'il y a. Bon, elle n'est pas rentrée dans le détail du point de vue de la sexualité pure, parce que ça, je crois que même encore maintenant, je ne sais pas, moi je ne suis pas mère.
Les mères ne sont peut-être pas
moi, je crois qu'à mon avis, voilà, hein, je ne suis pas vraiment sûre que les parents soient encore les mieux placés pour parler de ça. Donc, si vous voulez, bon, comme on disait à l'époque, maman nous a prévenu d'un tas de choses, comme les mères, bon, certaines mères, parce que moi, je pense qu'il y a des mères de la génération de la mienne qui ne parlaient pas de ça à leurs filles. Maman, elle avait une parole assez libre là-dessus. Je crois qu'elle n'a jamais été très gênée de nous en parler. Alors, en général, elle nous prenait toutes les deux, ma sœur et moi, hein, pour éviter de répéter. Donc, elle faisait un lot.
Oui.
Hein. Disons, par exemple, pour ce qui était de... C'est vrai qu'on était encore sur notre génération... Par exemple, bon, les premières règles, pour certaines, c'était encore un mystère. La mère en avait pas parlé, on parlait de ça à demi-mot, elle ne comprenait pas très bien. Maman nous expliquait à peu près clairement ce que ça allait être. Et elle nous en a parlé assez jeune. Donc moi, j'étais très jeune quand elle en a parlé.
Forcément,
parce que,
puisqu'il y avait 2 ans d'écart
voilà.
avec votre
sœur. Et comme maman a été réglée très jeune, elle se doutait bien qu'il y en avait une des deux, si ce n'est les deux, à qui ça arriverait très jeune. Bon, c'est tombé sur moi, donc finalement... Elle, je pense que oui, ma sœur devait avoir à peu près 11 ans. Et moi, j'en avais 9, donc. Voilà.
D'accord.
Donc, pour ça, c'était pour ce qui était de bon, voilà, du fait, comme on disait, tu deviendras femme. Donc, voilà. Et puis après, c'est vrai, quelquefois, on avait un peu des conversations avec elle. Elle nous a jamais vraiment passé, souvent à l'occasion de certaines conversations. Quand les choses... Bon, les choses... Je ne me souviens pas exactement ça, pour ce dont je viens vous parler. Là, je m'en souviens parce qu'elle nous l'avait dit en vacances. On était en vacances avec elle. Et je ne sais pas, un jour, c'est venu comme ça, elle nous en a parlé. On était toutes les trois et voilà. Et parce qu'on ne partait jamais en vacances avec mes deux parents. Ils ne fermaient pas la boutique. Donc, il y avait un mois qui était souvent réduit à 3 semaines quand tout allait bien avec mon père. Et là, on partait en Franche-Comté, il allait voir sa famille. Et un mois avec maman. Et souvent, là, on partait au bord de la mer, on partait, voilà. On a fait certains voyages. Maman nous a un peu donné le goût des voyages. D'accord. Papa détestait ça. Donc voilà. Mais de ce point de vue-là, moi, j'ai pas... Bon, il y a eu quelques questions, mais je crois qu'elle a été très concise, hein, finalement. On n'a pas eu beaucoup de questions à lui poser derrière.
Peut-être aussi que c'est maintenant qu'il y a un déferlement de paroles.
Oui, bon, je pense qu'on a peut-être dû poser quelques questions à des moments, à certains moments, pour avoir des précisions. Mais c'est vrai, grosso modo, elle nous a dit, je pense, l'essentiel. Moi, je me souviens pas qu'on ait eu des questions, qu'on lui ait posé des questions après, qu'on lui ait. Je vous dis, je pense que peut-être quelques détails où il y a des choses qui sont venues un peu après au cours de conversations qu'on avait avec elle. Mais non, je n'ai pas vraiment le souvenir détaillé.
Mais au fond, ce que vous me dites, ça recoupe ce que disaient des gens. J'ai interrogé plusieurs personnes du 7e qui situaient cette rupture dans l'éducation des filles, justement, 10 ans avant 68.
Oui.
Ce qui va dans ce sens. Voilà. C'est-à-dire les gens étaient déjà un peu plus détendus. Au fond, vous dites la même chose.
Oui. Mais moi, je fais encore partie, je pense, d'une génération où on n'avait pas... Il n'y avait pas de réel dialogue avec les parents. Il n'y avait pas la parole comme... Bon, on parlait à table, on parlait de choses et d'autres. On était déjà plus de la génération où on renvoyait les enfants quand les adultes étaient à table. Mais on participait aux conversations, même quand il y avait des amis ou de la famille. Donc il n'y avait plus ce côté très bourgeois et guindé de l'éducation qu'il y avait vraiment avant. Et puis d'un autre côté, je crois qu'on n'était pas tout à fait dans la rupture. Donc ce côté, parole à l'enfant, expliquer tout aux enfants, non, non. Nous, quand on était petite, on obéissait, c'était comme ça, on faisait ce qu'on nous... Voilà, on t'a dit de faire ça, ben tu le fais. Il n'y avait pas d'explication à savoir pourquoi. D'ailleurs, moi, quelquefois, il m'arrive d'être un peu choquée, je vois des jeunes mères là qui viennent ici avec des enfants.
Ils discutent interminablement.
Mais c'est horrible, horrible. Il y a un moment, les enfants sont déjà partis ailleurs, ils ont fait 4 fois le tour de la librairie et ils n'entendent plus rien, quoi. Je crois qu'il faut que les enfants comprennent qu'il y a des choses qu'on ne leur explique pas, qu'il faut faire et pas faire. Voilà, c'est...
Vous êtes juste en avance d'un an ou deux. Vous voyez bien, justement, il suffit de regarder les livres qui sortent, tout le monde en est un peu...
Oui, mais je crois qu'il y a des enfants qui, à 3 ans, ne sont pas aptes à comprendre des explications. Ils ne savent pas de quoi on leur parle.
On revient au quartier, parce que sinon, on aura refait l'histoire de l'éducation.
Voilà, et de mai 68 et de l'après. 68.